Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants d'être devant toi, devant ta face, et d'être ensemble. Et nous voulons mettre ce temps à part pour écouter ta parole. Merci de nous le donner. Nous voulons vraiment nous remettre à ton esprit en ces instants. Nous ne nous reposons pas sur l'homme, nous ne nous reposons pas sur notre intelligence, mais nous voulons nous laisser conduire par ta parole et par ton esprit. Alors Seigneur, en ces instants, vraiment, nous voulons nous remettre à toi, te demander de nous éclairer, de nous guider, de nous faire entrer dans ce qui est ton plan, et Seigneur, réellement, de parler à nos cœurs. Permets-nous d'être en contact avec toi dans ces courts instants, et surtout, glorifie-toi, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, sois exalté dans ce temps de prédication. Merci Père. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire deux courts passages qui se trouvent tous les deux dans le Nouveau Testament. Deux très courts passages qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Un premier dans Matthieu chapitre 23. Vous avez l'air fatigué aujourd'hui. Il ne faut jamais être fatigué. Toujours sur le pont, toujours motivé, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 23, versets 8 à 10. Il est écrit: « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Et le deuxième passage, dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Corinthiens 4, 15, il est écrit: « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi, votre père, dans l'Évangile. » Ou alors « puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Ou encore « si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez qu'un seul père, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. » Amen. N'importe qui dans cette salle qui a lu ces deux passages attentivement a remarqué qu'il y a une contradiction flagrante. Si vous ne l'avez pas remarqué, vous dormiez peut-être pendant la lecture, ou alors vous n'avez peut-être pas pris conscience des mots qu'on lisait, mais il y a dans ces deux textes une contradiction. Il semble qu'ils disent deux choses complètement contradictoires et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Dans le texte de Matthieu 23, c'est un texte qu'on connaît bien, puisque c'est un texte dans lequel, en réalité, Jésus est en train de s'adresser à ses disciples et à la foule, et s'adressant à cette foule, il parle en particulier des pharisiens, des spécialistes de la loi, et il est en train de leur faire des remontrances extrêmement sévères. Vous connaissez ce texte de Matthieu 23 où en fait il dit « Malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Il est en train de leur faire des remontrances très sévères parce que les pharisiens qui sont, entre parenthèses, opposés au ministère de Jésus, qui se sont toujours opposés au ministère de Jésus et qui finalement vont être parmi ceux qui vont conduire à sa crucifixion, eh bien ils égaraient le peuple de Dieu. Ils égaraient le peuple de Dieu, ils ne conduisaient pas le peuple de Dieu sur le bon chemin. Jésus leur reproche leur hypocrisie. Ils étaient centrés sur le paraître. Être vu comme, être vu de telle façon, être appelé de telle façon. Ils étaient remplis d'orgueil, leur dit Jésus, et ils privilégiaient les rites, les habitudes, les traditions par rapport à la relation avec Dieu. Par rapport à la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et Jésus va leur dire, vous avez donné beaucoup d'importance à vos traditions, mais vous avez annulé la parole de Dieu. Donc nous sommes dans un texte où Jésus est vraiment extrêmement sévère et on sait que Jésus n'était pas du genre à camoufler ce qu'il avait à dire. Il disait les choses telles quelles, mais Matthieu 23 est un texte vraiment où Jésus va droit au but avec ses pharisiens. Et à l'intérieur de ces condamnations, eh bien, il se trouve les versets qu'on a lus, les versets 8 et 10, dans lesquels Jésus est en train de dire à ses disciples et à la foule, il leur fait une parenthèse en leur disant, « Et vous, n'appelez personne père, n'appelez personne maître, n'appelez personne directeur. » N'appelez personne, ne donnez ces titres-là à personne. On pourrait comprendre dans ces versets, si on les lit attentivement, que nous ne devons plus appeler notre père papa, puisqu'il est écrit « Vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux ». Vous l'avez lu le verset. Donc on pourrait comprendre qu'on devrait dire aux enfants « Vous n'avez plus le droit d'appeler votre père papa, parce que vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux ». On pourrait comprendre dans ce verset que nous ne devons avoir aucune autorité et que nous devons tous, chacun, faire ce que nous voulons, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'Église. On pourrait comprendre qu'il ne doit pas y avoir de directeur. Vous pourriez aller à votre travail demain en disant « La Bible dit, n'appelez personne directeur ». On pourrait comprendre qu'on ne doit pas avoir d'enseignant dans l'Église, pas d'ancien, pas de pasteur, pas de... On pourrait comprendre cela. Et pourtant, dans le texte de Corinthiens, on trouve l'apôtre Paul qui dit à ses disciples « Je suis votre père dans la foi ». Vous avez lu le verset, il est dans vos Bibles aussi. C'est pas moi qui l'ai inventé, on est d'accord. « Je suis votre père dans la foi ». Alors quand on lit ces deux versets-là, on a un petit peu envie de dire « Mamma mia, l'apôtre Paul n'écoute pas Jésus ». C'est ça qu'on aura envie de dire. L'apôtre Paul ne savait peut-être pas ce que Jésus a enseigné qu'on a envie de se dire. Ou alors de se dire « Aïe, il y a un problème ». Et pourtant, nous savons tous dans cette salle que la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit et qu'il ne peut pas y avoir de contradiction et que c'est simplement une façon d'aborder le texte. Et j'ouvre une parenthèse en disant que ce verset-là ou ces deux versets-là nous montrent bien l'importance d'apprendre à bien lire la Bible. Parce que si on lit la Bible et qu'on fonde une doctrine sur un verset tout seul dans son coin, on arrive à des conclusions complètement farfelues. Si on prend juste le verset de Matthieu 23 et qu'on commence à faire des élucubrations sur le sujet, ben voilà, vous n'avez plus de père, il n'y en a qu'un qui est dans le ciel, pas de directeur au travail, et on arrive à des conclusions stupides, comme il y a eu beaucoup dans l'histoire de l'Église, parce qu'on s'imagine qu'un seul verset peut fonder une doctrine. Or non, dans la Bible, pour faire une doctrine, il faut connecter les versets ensemble. Et parfois, on a comme ça des débats, parce que des gens prennent un verset dans un coin et disent « Ben voilà, c'est ce que la Bible dit. » Ben oui, la Bible dit ça là, mais elle dit aussi ça là. Elle dit ça là, et elle dit ça là. Et quand on prend tous les versets ensemble, on peut arriver à comprendre un certain thème. Parenthèse refermée. Mais en tout cas, ça nous laisse devant un problème. Il y a trois titres que Jésus interdit à ses disciples. Le titre de maître, le titre de directeur et le titre de père. N'appelez personne votre maître, n'appelez personne votre directeur, n'appelez personne votre père. Premièrement, le titre de maître, c'est le titre, c'est rabbi en fait, en hébreu, et c'est un titre qui marque un grand respect. C'est une façon de parler à quelqu'un avec respect. Rabbi, on manifeste là un respect, et les rabbis avaient une autorité très très forte dans le judaïsme et jusqu'aujourd'hui. Quand on dit les rabbanim, donc c'est le pluriel de rabbi, c'est des gens qu'on respecte beaucoup. Un rabbi, c'est un homme qui est très considéré pour sa sagesse, pour sa connaissance de la parole de Dieu, pour son enseignement. C'est quelqu'un de respecté, quelque part. On parlait aussi de rabbi pour les chefs de file, les chefs de courant. Vous savez que dans les religions, il y a souvent des courants, n'est-ce pas? Les courants, comme on peut avoir dans les courants du... dans le christianisme, les courants dans le protestantisme, et on appelait parfois rabbi le chef de file d'un courant, le leader d'un courant, une façon de montrer que c'est lui le chef, c'est le maître et qu'on le respecte comme maître. Et en disant ça, en leur disant de n'appeler personne rabbi, Jésus est en train de dire à ses disciples de n'accepter l'autorité de personne à part la sienne, c'est-à-dire de ne se laisser conduire dans aucune autre secte, dans aucune autre, aucun autre rassemblement que celui où lui est le rabbi. Quand on dit rabbi à quelqu'un, ça veut dire qu'on le considère comme étant celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui à qui on donne un certain respect, et surtout, ça veut dire celui qui nous enseigne. Le rabbi, c'est celui qui nous enseigne. Et quand Jésus leur dit « n'appelez personne rabbi », ça veut dire « ne vous attachez à aucun autre enseignement que le mien ». Ne laissez aucun autre enseignement devenir une référence pour votre foi. Ensuite, il leur dit « n'appelez personne père ». Alors, père ici, c'est pas forcément père dans le sens du papa, mais c'est le sens père dans le sens du titre honorifique. Un titre honorifique qu'on donne à quelqu'un à qui on doit beaucoup. Quelqu'un qui nous a conduit, qui nous a enseigné, qui a pris soin de nous, qui nous a nourri, qui nous a enseigné la parole de Dieu. Et c'est un terme par lequel on montre une grande dépendance vis-à-vis de la personne. On dit c'est mon père. Tout comme on peut dire c'est mon père spirituel, ou comme on peut dire dans un métier, c'est mon père dans la carrosserie, parce que c'est lui qui m'a tout appris. Vous voyez, quand on a un apprenti qui ne connaît rien à la carrosserie et qui arrive, et il trouve un carrossier expérimenté qui lui apprend tout, on va dire, ben, c'est mon père dans la carrosserie. Vous comprenez le... C'est clair ou pas? Et voilà, ben oui, voilà. Oh. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est un titre de respect. Quand Jésus leur dit « n'appelez personne père », il est en train de leur dire « n'oubliez pas qui est la vraie source de toute paternité ». Qui est la source de toute autorité, qui est la référence ultime, qui est le Père de tous les Pères, le Grand-Père, le Père des cieux, le Père de l'univers. Notre Père qui est dans les cieux. Dieu est la source de toute paternité. Et puis, il y a un troisième titre que Jésus interdit à ses disciples, c'est le titre de directeur. N'appelez personne votre directeur, car le Christ seul est votre directeur. Et là, le directeur, c'est un terme en fait qui fait simplement, c'est comme si on disait le chef, le leader, le conducteur, le guide, c'est le chef quand on dit le directeur, n'appelez personne votre directeur. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir quelque part de cette parole si piquante de Jésus? On doit retenir que pour être un chrétien mature, nous avons besoin de savoir qui est notre référence. Nous devons savoir que nous avons une seule référence et c'est le Christ. Le premier trait de la maturité spirituelle, vous avez vu qu'on entre dans une nouvelle série, c'est avoir la bonne référence. Avoir la bonne référence, avoir le bon focus. La bonne référence, c'est Jésus. Pour notre foi, la référence, c'est Jésus. Pour notre foi, la référence, c'est l'enseignement de Jésus. Pour notre foi, c'est ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus fait. Nous sommes les disciples de Jésus, et seulement de Jésus. Nous ne sommes pas les disciples de Branham, nous ne sommes pas les disciples de Marie, nous ne sommes pas le disciple de Saint Ambroise, nous ne sommes pas le disciple de Pasteur Intel, nous ne sommes pas le disciple d'Ancien Intel, nous sommes les disciples de Jésus. Le premier trait de la maturité spirituelle, c'est « je sais qui est mon maître et je n'en ai pas d'autre à part Jésus ». Il est la référence de ma foi, il est la référence de ma vie, il est la référence dans mon avancement, dans ma conduite. C'est le Christ. Avoir une bonne référence. Je sais qui je suis, c'est Jésus. Je sais à qui j'obéis, à Jésus. Je sais qui est mon maître, c'est Jésus. Je sais qui est mon modèle, c'est Jésus. Et je n'en prendrai pas d'autre. Avoir la bonne référence pour notre foi. Jésus est notre référence. Par rapport à ça, il y a trois grands écueils qui sont possibles. Un premier écueil qui consisterait à nous prendre, nous, comme référence pour notre foi. Je suis ma propre référence pour ma foi. Et ça peut n'amener que des choses négatives. Par exemple, une première chose négative que ça peut amener, c'est que si je suis ma propre référence pour ma foi, et que je vais très vite me rendre compte qu'en moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes et pas très belles. Si je passe ma vie spirituelle à me regarder moi, à me prendre moi comme référence, je vais être toujours découragé, parce que je vais toujours me rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, que je ne prie pas assez, que je ne lis pas assez, que je ne suis pas un chrétien assez zélé, que je ne témoigne pas assez, ou que je pêche. Si je me prends moi comme référence, je suis toujours un chrétien découragé, démoralisé. Vous savez, l'introspection, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait tous, regarder à l'intérieur de soi. Mais l'introspection, quand on est chrétien, ça peut être la chose la plus décourageante qui soit. Parce qu'on va tout le temps comparer ce que Dieu me demande et ce que je suis. Et à un moment donné, on a envie d'abandonner parce que je dis, mais après toutes ces années, je suis nulle part. Et quand on regarde trop à soi, on peut être terriblement découragé. Un anonyme a dit, pour un regard sur nous-mêmes, jetons-en 10 sur notre roi. Donc pour un regard sur moi-même, jetons-en 10 sur notre roi. En d'autres termes, passons plus de temps à regarder Jésus qu'à nous regarder nous-mêmes. Passons plus de temps à regarder les mérites de Jésus qu'à en chercher chez nous. Passons plus de temps à regarder la croix qu'à nous regarder nous. Sinon, on peut être très vite découragé. Vous, ce n'est pas votre cas, parce que vous, vous êtes des chrétiens zélés, mais moi, le pire de tous les pécheurs. Si je me regarde à moi, je me dis, jette l'éponge. Quand on regarde à nous, on peut être découragé. Premier danger. Deuxième danger, quand on regarde trop à nous, on peut devenir la référence personnelle de notre foi. C'est-à-dire qu'on peut devenir son propre Seigneur. Et tout estimer par rapport à moi. Si je regarde à moi et si je me considère comme la référence de ma foi, eh bien j'en arrive à un moment où je calque ma vie chrétienne sur ce que je suis, sur ce que je veux, sur ce que je pense, sur ce que j'ai comme idée, sur ce qui me plaît, sur ce qui ne me plaît pas. Et quand on se prend comme propre référence de sa foi, eh bien on fait de la pioche, c'est-à-dire que je suis ma propre référence et donc j'estime souverainement ce qui dans l'évangile me plaît et ce qui dans l'évangile ne me plaît pas puisque je suis ma propre référence. Je deviens le capitaine de mon âme, je deviens mon propre seigneur, je deviens mon propre maître et je deviens un chrétien qui choisit à la carte. Parce que c'est moi la référence. Ce qui m'intéresse, m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, ne m'intéresse pas. Deuxième danger, n'est-ce pas ? Quand je deviens ma propre référence, quand je regarde trop à moi, je deviens ma propre référence, mon propre maître. Et c'est là qu'on est dans l'empire de « je pense que ». Moi, je pense que. Moi, je trouve que. Oui, mais attends. La Bible, tu sais ce qu'elle dit ? Oui, mais moi, je pense que. Mais est-ce que c'est toi qui es ton propre maître ? Ou est-ce que notre maître, c'est Jésus ? Danger de devenir notre propre référence. Tim Keller a dit, « Si ton Dieu ne te contredit jamais, il est possible que tu sois en train d'adorer une version idéalisée de toi-même. » Si ton Dieu ne te contredit jamais, il est possible que tu sois en train d'adorer une version idéalisée de toi-même. C'est-à-dire que si je suis ma propre référence, je ne suis jamais contredit dans ma foi, n'est-ce pas ? Et donc tout ce que je pense, tout ce que je crois, tout ce que j'ai comme idée devient la référence. C'est un combat parfois dans le monde chrétien que nous puissions accepter que c'est Jésus la référence. Et que Jésus dit plein de choses qui ne me plaisent pas. Mais il y a plein de textes dans la Bible qui ne m'arrangent pas. J'aimerais bien les enlever, n'est-ce pas ? Vous pas ? Oui, non, vous non. Mais moi, moi le grand pécheur de cette église, il y a plein de textes qui ne m'arrangent pas dans la Bible. Moi, j'aimerais bien pouvoir voler. Moi, ce serait cool. J'aimerais bien pouvoir voler. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire d'autre ? J'aimerais bien convoiter la voiture de mon voisin. J'aimerais bien frauder. J'aimerais bien vivre dans la débauche. Ce serait bien aussi. Et j'aimerais bien aller voir des marabouts. J'aimerais bien faire plein de choses. Mais je ne suis pas la propre référence pour ma foi. La référence pour ma foi, c'est Jésus. Et c'est la parole de Jésus. Et puis, un troisième danger, quand on regarde trop à soi-même, c'est qu'on devient un chrétien jugeant. C'est-à-dire que je deviens ma propre référence, et donc j'estime que tout le monde doit être selon moi, selon ma référence. Et je vais juger tous les chrétiens qui ne sont pas selon ma référence. selon mes principes, selon mon idée, selon ma vision des choses, et toute personne qui prie d'une autre façon, qui va devenir quelqu'un sur qui je me sens disposé ou apte, habilité à juger. Parce que je pense que je suis la propre référence de ma foi. Et je pense que c'est moi qui ai à juger les autres, parce que c'est moi la référence. Cette semaine, nos frères catholiques ont perdu le cardinal Danneels, un grand homme, un très grand homme. Et il disait toujours, le cardinal, une expression, il disait toujours, parfois quand on lui posait des questions, quand on a élu Benoît XVI, il n'était pas très content, ce n'était pas trop son favori. Et alors on lui a posé la question, mais Monseigneur, est-ce que vous pensez que ce nouveau pape est l'homme de la situation ? Elle a répondu, Dieu juge si c'est l'homme de la situation. Pas moi. Dieu juge si c'est l'homme de la situation. Quand on lui a demandé à la fin de son ministère, il a été 30 ans archevêque de Malines-Bruxelles, on lui a demandé à la fin, est-ce que vous pensez que vous avez bien fait votre travail, que vous avez porté beaucoup de fruits ? Il a répondu, Dieu juge si j'ai porté beaucoup de fruits. Et vous savez que cette expression, elle vient de la Bible. Parce que l'apôtre Paul a dit à un moment donné, je ne me juge pas moi-même. En d'autres termes, je ne me fais pas mon propre juge, je ne me fais pas ma propre référence. J'attends le jugement que Dieu pose sur moi. Si je me juge moi-même, souvent j'ai raison. Donc il y a deux grands extrêmes. Si je me juge moi-même, soit j'ai toujours raison avec moi-même, c'est une boucle dans laquelle je m'entends bien avec moi-même, ou alors je suis toujours découragé parce que je suis trop sévère avec moi-même. Et au contraire, nous devons apprendre à laisser Christ être notre référence et à laisser Dieu être notre juge et à calquer tout ce que nous sommes par rapport à lui. Un deuxième danger qu'il peut y avoir par rapport à ça, il peut y avoir premièrement le fait de trop regarder à nous-mêmes, mais il y a aussi le fait de trop regarder aux autres. Quand on n'a pas la bonne référence, on regarde trop aux autres. Et on commence à calquer sa foi sur les autres, sur ce que les autres pensent, sur ce que les autres veulent, sur ce que les autres voudraient. Et c'est ce que l'église de Corinthe a vécu, puisque à un moment donné, ils étaient dans des disputes dans lesquelles ils disaient « Moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul, moi je suis pour un tel ». Ils commençaient à être dans une relation dans laquelle ils avaient pris des humains comme référence. Moi, ma référence est Paul. Moi, ma référence est un tel. Voilà, ça c'est... Et ils oubliaient que la référence est Jésus. Et l'apôtre leur dit « Mais que sont tous ces hommes ?» Des simples serviteurs de Christ. Des simples serviteurs de Christ. L'apôtre les ramène à la référence de leur foi. C'est Jésus la référence de votre foi. C'est pas tel humain, c'est pas tel ancien, c'est Jésus. La vraie référence de notre foi, c'est Jésus. Et donc le danger, quand c'est comme ça, c'est que nous suivons les autres et pas Jésus. On suit le mouvement, on suit la foule, on suit ce que les autres pensent, on suit l'opinion, on suit la mode, plutôt que de suivre Jésus. Vous avez déjà certainement tous vécu cette situation, une fois que vous étiez dans une grande ville, comme Bruxelles par exemple, et vous êtes devant un passage pour piétons, un feu rouge, le feu est rouge, il n'y a pas de voiture, c'est les soldes, c'est rempli, il y a des gens partout, on est tous en train d'attendre, il n'y a pas de voiture. Selon nos principes, on dit non, c'est rouge, donc je ne traverse pas. Et puis il y en a un qui se lance et tout le monde le suit. C'est vrai ou c'est pas vrai ça ? Moi je l'ai fait plein de fois ça. Mais c'est très grave parce que ça veut dire que je déroge à mon principe. Pourquoi ? Parce que les autres l'ont fait. Mais quand on a la force d'avoir la bonne référence, on se dit, mais tous les autres peuvent y aller, moi j'attends, parce que c'est rouge. Mais quand on pense que c'est les autres la référence, on marche en fonction des autres. Et donc, ça peut donner beaucoup de choses dans l'Église. Ben voilà, si les autres ne font pas, si les autres n'avancent pas, moi je ne fais rien. S'il n'y a pas telle chose, moi je ne fais rien. Mais qui est ta référence ? C'est Christ, notre référence. Nous devenons des gens qui suivons les autres. Vous connaissez ce chant, ce vieux chant que vous ne connaissez pas, c'est un chant que Francis et moi on chantait quand on était jeunes. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Voilà, c'est ça Ma référence est Jésus, je suis Jésus. Si mes amis s'en vont, ben tant pis. Si les autres n'ont pas envie, c'est tant pis. Parce que ma référence, c'est Jésus. Ma référence, c'est le Christ. Nous devons toujours faire attention à qui nous suivons, n'est-ce pas? Il y a des peuples entiers qui ont suivi Hitler. C'était leur maître, le directeur, le chef. Hein? N'appelez personne votre directeur, n'appelez personne votre maître, n'appelez personne votre père. Eh bien, Hitler était le père, le directeur, le conducteur de ce grand peuple. Ils l'ont suivi, mais ils ne savaient pas où ils allaient en suivant Hitler. Ils avaient choisi Hitler comme étant leur référence. Et donc, le troisième écueil que nous pouvons avoir, c'est de regarder un autre maître. Premier écueil, regarder trop à nous-mêmes. Deuxième écueil, regarder trop aux autres. Troisième écueil, regarder trop à un autre maître. Regarder à un autre maître. Galates 1, verset 8 dit, Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc je vais le dire dans un français qui est plus compréhensible. Si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire qu'il soit exclu, qu'il soit maudit, qu'il soit retranché. Nous n'avons pas d'autre maître, nous n'avons pas d'autre évangile, nous n'avons pas d'autre chef que le Christ. Et c'est à sa suite que nous marchons. C'est d'ailleurs un grand principe de la réforme, solus Christus, le Christ seul. Le Christ seul. Et quand on disait ça dans la réforme, ça voulait dire le Christ seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Puisque vous savez que dans l'Église catholique, il y a une idée fausse qui passe, c'est que le prêtre est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce à quoi les protestants ont dit jamais de la vie. Il n'y a pas d'homme qui peut être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et nous entrons à Dieu par Jésus. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous n'a besoin d'un serviteur pour prier, par exemple, ou pour être pardonné. Vous n'avez pas besoin de venir chez quelqu'un pour obtenir le pardon, parce que nous sommes en relation directe avec Dieu au travers du Christ. Avoir le bon focus. Un focus, c'est un endroit où l'on fixe son regard. Un endroit où l'on regarde, c'est ça. Et donc, un focus, c'est aussi, vous voyez les foyers de lumière où tout converge là, et un point focal, si vous voulez. Un point où tout se concentre, tout converge. Avoir le bon focus, avoir la bonne référence, c'est avoir le bon regard, avoir le regard placé au bon endroit. Le regard placé au bon endroit, le regard tourné vers la bonne personne, et la bonne personne pour nous, c'est Jésus. Le regard est important et nous devons le tourner vers le Christ. Vous savez que dans la conduite, par exemple, le regard est très important, puisqu'on dit que la voiture suit le regard du conducteur. Et donc, quand on est face à un obstacle, quand on apprend aux gens à conduire, on leur dit, si jamais tu regardes l'obstacle, tu vas aller à l'obstacle. Vous savez, quand il y a un petit trou, par exemple, vous regardez le trou, ne regardez pas les... Comprenez ou vous ne comprenez? Ah ben, oui, mais dites, montrez alors que vous comprenez. On croirait à un gars qui prêche dans le désert, ici. Bon. Donc, vous ne regardez pas les obstacles, vous regardez l'issue pour ne pas aller sur les obstacles, n'est-ce pas? Et c'est la même chose en moto, on dit la moto suit votre regard. Et donc vous devez apprendre à bien regarder au bon endroit, sinon vous risquez de vous planter. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Notre regard détermine notre vie chrétienne. En fonction de où je regarde, ma vie chrétienne va être plus ou moins de qualité. Si je regarde à moi-même, si je regarde aux autres, ou si je regarde à Jésus. Jésus est notre maître, c'est de lui que nous recevons notre enseignement. Jésus est notre maître, c'est lui qui est notre modèle, notre exemple. Jésus est notre maître, c'est à lui que nous vouons tout notre respect, toute notre déférence. Pas un archevêque, pas un prophète, à Jésus. C'est lui que nous respectons, c'est lui que nous révérons. Nous suivons Jésus, nous recevons ses enseignements. Premièrement, nous recevons son enseignement, c'est son enseignement qui compte. Ce lieu-ci, par exemple, regardez ici, ce lieu ici-là, c'est un lieu qui est consacré à proclamer la parole de Jésus. On ne vient pas ici le dimanche pour raconter son opinion sur la vie. Ici, on proclame la parole de Jésus. Dans l'histoire de l'Église, on appelait ça une chaire de vérité. Parce qu'à l'Église, c'est pas moi qui viens dire, vous savez, je pense que... Et vous devez tous faire ce que je vous dis. C'est la parole de Dieu qu'on enseigne ici. C'est la parole de Dieu auquel nous obéissons. Pas la parole d'un humain, pas l'opinion d'un humain, pas les fluctuations. Hein, si Gino dit « moi j'aime bien le choco », on ne va pas tous dire « ah ben on aime bien le choco ». On vient ici pour proclamer la parole de Jésus, la parole de Dieu, et c'est cette parole de Dieu qui est notre référence. Et nous n'écoutons pas le prédicateur pour qui il est, pour ce qu'il pense, nous l'écoutons uniquement parce que nous espérons, ou nous pensons, ou nous entendons qu'il dit la parole de Dieu. Sinon, voilà. Bon, soit. Alors, recevons l'enseignement de Jésus. Nous entrons en communion avec Christ, dans une relation personnelle avec lui. Nous conformons notre vie à Jésus. Et nous voulons l'imiter, nous voulons lui ressembler. Nous voulons ressembler à Jésus. Le regard bien fixé, le regard au bon endroit, détermine toute notre vie chrétienne. Tout notre avenir dépend de là où nous plaçons notre regard. Il y a un texte dans Hébreux où l'apôtre Paul parle de ça. Dans Hébreux 12, il dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Voilà où mon regard doit aller. Je ne vais pas dire « Ah non, Tantin n'était pas au culte, j'irai pas moi aujourd'hui. » Parce que je regarde à Jésus. Je ne vais pas dire « Non, Tante Hélène m'a mal parlé, je ne viendrai plus à l'église. » Je regarde à Jésus. C'est Jésus, la référence de ma foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors, il y a deux expressions qui sont là. Premièrement, on l'appelle Jésus le chef de la foi. Et deuxièmement, le consommateur de la foi. Alors, le chef de la foi, ça veut simplement dire le guide, le conducteur, le précurseur, celui qui est devant nous. En fait, dans ce texte, l'apôtre compare la vie chrétienne à une course. Et Jésus est celui qui est devant nous, le chef de notre foi, le guide de notre foi, l'initiateur, le pionnier de notre foi, le leader de notre foi, le chef de notre foi. C'est lui le chef de file de notre foi, c'est lui que nous suivons, c'est à sa suite que nous allons. Et deuxièmement, le qualificatif qu'on donne, c'est Jésus, le consommateur de la foi. Alors, vous savez tous, on vous en a déjà certainement parlé, mais donc, il y a beaucoup de gens, malheureusement, à qui on a donné une Bible d'Arby, on les évangélise, et on leur donne une Bible d'Arby. Tiens, lis, c'est la parole de Dieu. Alors, ils ouvrent, le chef et le consommateur de notre foi. Alors, ils imaginent un gars en train de manger des morceaux de pizza, de consommer la foi. Vous avez tous compris que ce n'est pas ça que ça veut dire. Le consommateur de la foi, ça veut dire celui qui achève la foi, celui qui rend notre foi parfaite, celui qui amène notre foi à son accomplissement. La consommation, quand on dit par exemple la consommation des temps, c'est l'arrivée à la fin des temps, l'achèvement des temps. Donc c'est Jésus qui amène notre foi à son achèvement, qui l'a fait grandir, qui l'a parfait, qui l'amène à son plein développement, le consommateur de notre foi. Et le livre, l'Épître aux Hébreux, est un livre dans lequel on parle beaucoup de cette idée-là, de la perfection. Parce qu'on parle du fait que Jésus est la perfection, que Jésus nous a fait entrer dans une alliance de perfection. Et là, on nous présente Jésus comme étant celui qui nous perfectionne, celui qui nous achève, celui qui nous permet d'arriver au bon port. La version Parole de Vie dit « Regardant toujours à Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » Le consommateur de la foi, ça veut dire celui qui rend la foi parfaite, qui l'accomplit, qui la rend de plus en plus parfaite. Jésus est notre regard. Pour être des chrétiens en bonne santé, nous avons besoin de savoir où porter notre regard, premièrement. Où est-ce que je dois regarder ? À Jésus. Deuxièmement, je dois être capable d'apprendre à garder mon regard au même endroit, sans changer, sans regarder ailleurs. Fixer mes regards sur Jésus. Fixer mes regards sur Jésus. Et troisièmement, je dois éviter de tourner mes regards vers autre chose. Andrew Murray, c'est un théologien et un pasteur sud-africain qui a travaillé en Angleterre, il a décrit ce regard que nous portons vers Jésus. Il a dit, c'est un regard de foi parce qu'en lui est notre salut. C'est un regard d'amour puisque lui seul peut satisfaire notre cœur. C'est un regard de désir intense dans notre soif de le connaître mieux. C'est un regard de croissance et d'obéissance, n'attendant qu'un seul signe qui nous indique sa volonté. C'est un regard d'allégresse, puisqu'il nous aime et que nous le savons. C'est un regard d'adoration et d'émerveillement, puisqu'il est la splendeur de la gloire de son Père, notre Seigneur et notre Dieu. Un regard d'amour, un regard de foi, un regard de désir que nous portons vers Jésus. Et les chrétiens qui durent le plus longtemps dans une bonne santé sont les chrétiens à qui on a appris dès le début à regarder à Jésus. Comment est-ce que des jeunes chrétiens comme Coraline, comme David, peuvent en arriver à devenir comme Francis et courir depuis des années en regardant à Jésus? En regardant à Jésus. Si on regarde aux humains, on est déçu. C'est vrai, vous êtes décevant, vous. C'est vrai. Si on regarde aux humains, on est déçu. Mais si on regarde à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, en tient longtemps. Et les chrétiens à qui on n'a pas appris ça dans le début de leur vie chrétienne, ils ont du mal. Parce qu'on leur a donné comme référence leur église locale. Et du coup, quand il y a un problème dans leur église locale, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas appris à regarder à Jésus. On leur a appris à regarder à tel ancien. Et puis quand ça ne va plus avec tel ancien, on est perdu, on ne sait plus où aller. Mais les chrétiens à qui on a appris à regarder à Jésus, ils courent et ils ne se lassent point. Parce que l'encouragement de leur foi, ce n'est pas quelqu'un qui peut décevoir, c'est le Christ, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur qui est mort pour eux. Alors, il y a de la magouille ici. Je vais commencer par... qu'est-ce que c'est que ça pour une horloge qui avance trop vite? Oui, mais c'est désagréable. On ne sait jamais voir ce qu'on doit voir. Il faut tout le temps reposer. C'est pas grave, vous reviendrez à 18h, on terminera. Bon, j'ai courte, hein, on va même pas voir la moitié du message, c'est pas grave. Alors, quatrièmement, quels sont les symptômes d'une mauvaise référence? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la bonne référence pour notre foi? Quand Jésus n'est pas notre référence, premièrement, on l'a dit, eh bien, on peut, et je ne fais pas un amalgame en disant que tous les gens déçus sont comme ça, mais on peut être beaucoup plus sensible à la déception, comme il vient de le dire. C'est-à-dire que quand Jésus n'est pas le cœur de ma foi, je vais être très très sensible aux autres, par exemple. Et donc, je vais être très influencé par ce qui se passe autour de moi, plutôt que vers Jésus. J'en ai ras-le-bol parce que les anciens m'ont dit que je ne suis pas prêt pour ce ministère. J'en ai ras-le-bol, le pasteur m'a dit que je vis dans le péché. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il dise? Il ne va pas chanter Jacques Brel. Bon, donc à un moment donné, on devient très sensible aux autres. Et on ne se pose pas la question de savoir, mais Jésus... parce qu'on n'a pas le regard au bon endroit. C'est un premier symptôme qu'on pourrait voir. On devient très sensible aux autres. Et je n'ai pas dit que les autres ne sont pas importants. Je n'ai pas dit qu'on peut dire ce qu'on veut, qu'on doit manquer de sagesse, qu'on doit manquer d'amour, manquer de respect. Mais en tout cas, nous devons apprendre à regarder à Jésus. Deuxièmement, un autre symptôme, c'est qu'on devient très, très influencé par la mode, par les médias, par l'atmosphère ambiante. Et donc, on va se retrouver en train de suivre les médias sans être capable de faire la différence entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Parce qu'on n'a pas la référence de Christ. On dit simplement, oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, plus personne ne respecte ses parents, ben moi non plus. Et donc, voilà, c'est l'ambiance qui guide notre foi. La société commence à diriger notre foi. Et donc, nous entrons dans les rangs et nous suivons comme celui qui est en train d'attendre au feu rouge et qui se dit, ben les autres ont été, moi aussi je peux y aller. Ça, c'est un deuxième symptôme. Un troisième symptôme qu'on peut avoir quand on ne fixe pas ses regards sur Jésus, c'est qu'on peut prendre exemple sur des responsables qui ne donnent pas le bon exemple. Que vous le vouliez ou non, que vous ayez envie ou pas, nous ressemblons aux gens qui nous ont enseignés, d'une façon ou d'une autre. Nous ressemblons un petit peu aux gens qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Et parfois, dans les églises, le problème, c'est qu'on ressemble à des responsables, mais qui ne donnent pas le bon exemple. C'est comme un enfant. Vous savez, quand on est un enfant et qu'on grandit, à un moment donné, on est capable de dire « J'aime mes parents de tout mon cœur, c'est ma vie, c'est... mais je suis capable de dire que telle chose, mes parents ne sont pas les meilleurs. » Vous voyez ce que je veux dire? On est capable de faire la différence, de dire « Oui, ça, mes parents m'ont transmis, ça m'a fait du bien, mais ça, bon, c'était pas non plus. » Vous savez que l'apôtre Jésus, quand il parlait aux disciples, aux pharisiens, il leur disait « Vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. » C'est grave, ça. Ça veut dire qu'on suit des gens qui ne savent peut-être pas où ils vont. Alors que si on est un chrétien qui a comme référent Jésus, on n'accepte que des responsables qui nous montrent Jésus, qui nous enseigne Jésus, qui imite Jésus, qui nous instruit selon Jésus. On ne suit que des gens qui nous montrent Jésus. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait? Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur du Christ. Et donc en réalité, quand on a le bon focus, on ne va suivre les mouvements que ceux qui nous amènent vers Jésus. On m'enseigne la parole de Jésus, on me montre qui est Jésus. Je veux être plus proche de Jésus. Ce qui peut aussi se passer quand on n'a pas le bon focus, la bonne référence, c'est que on va être ballotté à tout vent de doctrine, comme dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'on est instable dans la vie chrétienne. On ne sait pas où s'asseoir. Et donc on pense qu'on doit s'asseoir à gauche et puis à droite. Et on ne sait pas où on doit s'asseoir. Et ça, c'est terrible. Non, je te taquine, mais ça n'a qu'un rapport. Mais Evelyne, elle a compris. C'est grave, hein, Evelyne, de ne pas savoir, d'être instable dans sa vie chrétienne, n'est-ce pas? Bon, mais ça veut dire qu'on est instable et donc on suit tout vent de doctrine. Donc n'importe qui. Jacqueline, elle aime bien les vents de doctrine. Elle aime bien le vent qui souffle. Et il passe, et il repasse. Non, elle n'aime pas, c'est une blague. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on devient des gens qui sont influençables par toute doctrine qui passe. Quel que soit ce qu'on enseigne, ils ne sont pas capables d'être comme les chrétiens de Béret et de dire, ben non, ça c'est pas biblique. Et donc, si quelqu'un dit quelque chose, ben amen, c'est vrai. Et on n'est pas capable de faire la différence. Par contre, quels sont les signes d'une bonne référence, eh bien, nous sommes fermement attachés à Christ. Quel que soit ce qui peut se passer autour de nous, dans l'Église, parfois, l'Église n'est pas un lieu où tout va bien. L'Église est aussi un lieu où il se passe des choses négatives, blessantes, heurtantes, désolantes, décevantes, affligeantes. Mais on regarde à Jésus. Deuxièmement, on prend exemple sur des gens qui reflètent Jésus. On prend exemple sur des gens qui reflètent Jésus. Et troisièmement, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ressembler à Jésus. Pour ressembler à Jésus. Nous ne voulons pas ressembler les uns aux autres. Ce n'est pas notre objectif. Nous ne voulons pas ressembler à nos responsables, à nos anciens. Nous voulons ressembler à Jésus. C'est ça notre objectif. Et donc, pour ressembler à Jésus, nous méditons la vie de Jésus. Nous pensons à Jésus. Nous lisons Jésus. Nous lisons les évangiles. Nous méditons qui est Jésus. Nous écoutons son enseignement. Nous contemplons sa gloire. Nous vivons par son esprit. Nous grandissons dans sa famille, l'Église. Nous demeurons dans l'obéissance de ses commandements. Et nous sommes les imitateurs du Christ. Pour terminer, il nous reste quand même à résoudre ce problème, cette contradiction apparente que nous avons déjà résolue. Quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens « Je suis votre Père », pourquoi est-ce qu'il peut leur dire ça? Parce qu'il leur enseigne Jésus, parce qu'il leur montre l'exemple de Jésus et parce qu'il les amène à la bonne référence. Il ne les attache pas à lui, à qui il est, à sa personne. Il veut faire des chrétiens qui ressemblent à Jésus. Et ce n'est que pour ça qu'il peut dire « Je suis votre Père ». Parce que je vous ai enseigné Jésus, je vous ai montré Jésus. Vous connaissez ce que l'apôtre, Jean-Baptiste disait. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus croisse au milieu de nous. Il faut que Jésus croisse dans nos cœurs. Il faut que Jésus croisse de cette chair et qu'il soit celui qui est glorifié, la seule et l'unique référence de notre foi. Amen.